Les adultes, notamment, ont commencé à avouer lire la bande dessinée. Ils la lisaient déjà, mais ils l'ont avoué. C'est entré dans les mœurs.
Cette maison d'édition a une devise. Du travail, c'est bien. Du travail sérieux, c'est mieux.
Nous nous occupons de créer des structures nouvelles. Nous laissons les écrivains en faire des chefs-d'œuvre ou des navets.
Si le gag n'apparaît qu'en fin d'exécution, alors là, c'est un vrai plaisir.
Par la bande. Épisode 16, Popeye, Delsey, Chrysler, Segar. L'histoire commence le 19 décembre 1919 avec le Thimble Theatre, le théâtre du dé à coudre, strip quotidien publié dans le New York Evening Journal. Olive Oil est déjà là, accompagné d'un soupirant Harold Hamgravy. Castor Oil, le frère d'Olive, fera son apparition quelques semaines plus tard. Et de Popeye, point. Il faudra attendre 10 ans, le 17 janvier 1929, pour que Popeye entre en scène. Dans l'épisode du jour, Castor Oil monte une expédition vers une île casino, Dice Island, et a donc besoin d'un marin pour l'y conduire. Hé, hey, vous êtes marin? Est-ce que j'ai l'air d'un cow-boy? C'est bon, vous êtes engagé. C'est ainsi que Popeye intègre la série. Il n'est alors qu'un personnage secondaire. Ce n'est d'ailleurs pas le Popeye que l'on connaîtra par la suite, il est trouillard et craint les coups. De plus, à la fin de cette aventure, Popeye disparaît, mais il reviendra 6 semaines plus tard. Il prendra alors de plus en plus d'importance pour devenir le héros de la série, le personnage central des récits, celui autour duquel les intrigues vont se construire. En 31, le titre de la série devient Thimble Theatre Starring Popeye. Popeye est à la fois un anti-héros et un héros. Un anti-héros du fait de sa laideur. Il est borgne, édenté et malingre, a des avant-bras hypertrophiés. Il a sale caractère, est irascible, volonté violent, menteur, et s'exprime dans une langue joyeusement massacrée. Un héros. Il est toujours prêt à défendre la veuve et l'orphelin, croit en l'amitié, le seul vrai diamant, dit-il, il est loyal, honnête, et cultive une grande estime pour les petites gens et les déclassés. De plus, il est d'une force colossale et quasiment invulnérable. Dans un épisode où il s'est fait tirer dessus dans la poitrine, il éternue pour en recracher les balles. Si Popeye court souvent après la fortune ou des trésors, son intérêt pour l'argent est cependant très relatif. La preuve, après une aventure lui ayant fait gagner une fortune colossale, n'en ayant pas vraiment besoin, il met sur pied ce qu'il nomme une banque à sens unique. Dans cette banque, on n'ouvre pas de compte, ni de dépose d'argent. Au contraire, on en retire sans avoir de compte, il suffit d'en avoir besoin et d'en faire la demande. Une fois toute sa fortune redistribuée, Popeye ferme la banque. La recherche de la fortune, les trésors, ne sont que des prétextes pour l'aventure. Et puis Popeye est un peu un utopiste et un anarchiste. Même si cette redistribution ne change rien, le monde continuant de tourner comme avant, il aura aidé certains, au moins pendant un temps, à améliorer leurs conditions. Par ailleurs, par deux fois, il tentera de créer une nation parfaite dont il sera le tyran éclairé, Popilania et Spinachova. Ce sera, bien sûr, malgré toute la bonne volonté de Popeye, deux échecs. Mais ce sont là des occasions rêvées pour Segar de faire pleinement état de son iconoclasme social et irrévérence politique. Pour reprendre l'expression de Thierry Groenstein. Le petit monde de Popeye est peuplé de personnages bancals, difformes, voire monstrueux, et d'animaux bizarres autant qu'étranges. On y croise par exemple Alice Le Goon, créature difforme, aux jambes et aux bras velus, parlant un langage incompréhensible et même illisible. Toar, un colosse, un homme des cavernes âgé de 20 000 ans, ou encore la sorcière des mers. Sans parler de Poupdek Papi, le père de Popeye, un misanthrope absolu qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son fils, avec une courte barbe blanche en plus et l'absence de tatouage sur les avant-bras. Parmi les animaux, notons Bernice la poule souffleuse, une bestiole impossible à tuer et portant chance, et bien sûr Eugène le Jeep, un animal quadridimensionnel, ne se nourrissant que d'orchidées, et qui, puisqu'ayant accès à la quatrième dimension, connaît l'avenir et peut se dématérialiser. Ces gardes déploient un univers où la laideur le dispute à la brutalité. C'est à la fois grotesque et violent, et pourtant une poésie vraiment jubilatoire s'en dégage. Pour finir, je citerai Francis Lacassin. Le secret de la fascination de cet univers consacré à la hideur et à la violence est que ceux qui s'y meuvent ont le droit d'accomplir tout ce qui est interdit dans la réalité sophistiquée et policée. Dire crûment à ses semblables ce que l'on pense d'eux, ne pas être poli avec les dames, cogner pour se défendre, être brutal avec ses parents, déguster son potage en faisant du bruit, manger avec ses doigts. Voilà. Pour l'épisode 17, je vous parlerai de l'histoire pittoresque, dramatique et caricaturale de la Sainte-Russie de Gustave Doré.
Les adultes, notamment, ont commencé à avouer lire la bande dessinée. Ils la lisaient déjà, mais ils l'ont avoué. C'est entré dans les mœurs.
Cette maison d'édition a une devise. Du travail, c'est bien. Du travail sérieux, c'est mieux.
Nous nous occupons de créer des structures nouvelles. Nous laissons les écrivains en faire des chefs-d'œuvre ou des navets.
Si le gag n'apparaît qu'en fin d'exécution, alors là... C'est un vrai plaisir.